Le festival du dessin d'art a déjà l'ampleur de celui de la photo qui en sera à sa 57e édition cet été. Pour la 4e édition du festival du dessin, Frédéric Pajac propose sur une dizaine de lieux un grand nombre d'expositions. Nous découvrons ainsi avec les originaux toute l'intensité du dessin. Il vous reste quelques jours pour découvrir toute la pluralité des œuvres, puisque c'est jusqu'au 17 mai. Les écoles d'art de Florence, d'Athènes et de Paris sont présentes. Un focus Viva Italia, un ensemble d'œuvres de différents artistes sur le paysage. Des découvertes à foison jusqu'au 17 mai. Frédéric Pajac nous présentera cette 4e édition à partir de 14h10 environ. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Cette émission consacrée au Festival du dessin d'Arles a été enregistrée. L'entretien avec Frédéric Pajac a eu lieu dans les studios de Radio Escapade jeudi dernier. Et c'est Sidzen Endresel et Endresen et Buggy Wesseltoff qui seront les invités musicaux de cette émission. Trois morceaux seront présents. Keep on looking, you keep on searching, keep on moving. Further, keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing, just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try. You just try. Maybe your world shakes, you try to hold on. Maybe your heart breaks, just keep on loving. Maybe you'll find out it's meant to be this way. Maybe you'll learn this, or maybe we'll learn this. Try.
Écrivain, dessinateur, éditeur, créateur des cahiers dessinés, directeur artistique du Festival du dessin d'Arles. Frédéric Pajac n'est pas un simple artiste nomade, tant les mains projets qu'il a créés, livres, journaux, expositions, films, sont intimement liés. Ce sont les facettes multiples d'une même œuvre. Frédéric Pajac donne forme à ses tourments, ses éblouissements. La solitude est au centre de son œuvre. Dans l'immense solitude, celle de Nietzsche et de Cesare Pavese résonne avec la sienne. Pajac, dans les récits dessinés de ses manifestes incertains, mêle autobiographie, différentes biographies, philosophie et poésie. Exigence d'écriture, documentation intense, dévoilant des pans de la personnalité, par exemple de Walter Benjamin ou de Van Gogh, associés à ses dessins en noir et blanc, aux techniques diverses, captant par ses choix des moments fixés, ses cadrages, au-delà du réel, notre dimension intérieure. Éditeur de journaux, de cahier dessiné, Frédéric Pajac accueille et fait connaître le travail de ceux qu'il aime. Avec Vera Michalski, éditrice des éditions Noir et Blanc, qui a permis aux cahiers dessinés de prendre leur autonomie, il crée le Festival du dessin d'Arles. Il célèbre cet art du dessin enfin sorti du mépris. Frédéric Pajac est avec nous pour qu'il nous guide vers ces chemins personnels des artistes et la vérité profonde de leur subjectivité à travers leurs dessins. Bonjour Frédéric Pajac.
Bonjour.
Alors, le dessin est donc vraiment au centre de vos activités artistiques, de créateur. Qu'est-ce qui vous émeut dans le dessin ?
Je crois d'abord c'est notre premier langage créatif. Tout le monde a dessiné enfant. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas de mauvais dessin d'enfant, ça n'existe pas. Tous les dessins sont intéressants et tous les dessins sont toujours assez émouvants. Et je crois que, en fait, je suis pas le seul à le dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont recherché, comme Paul Klee par exemple, qui ont recherché l'enfance dans leurs dessins, ou Miro, ou des gens comme ça. Et puis ils ont recherché Steinberg, et le dessin d'enfant, et ils ont chaque fois essayé de faire un trait d'union entre leur enfance et puis leur préoccupation d'adulte. Donc le dessin pour moi c'est vraiment à l'origine, c'est aussi à l'origine du monde, puisque les dessins des grottes de Lascaux ou de Chauvet nous montre des dessins absolument fantastiques sur les parois. Et voilà, c'est des dessins qui sont restés intacts, quoi, pratiquement. Donc on est face à un mystère, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ces dessins. Mais justement, je crois que la dimension du mystère dans le dessin est très importante.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que on n'identifie pas forcément, on sait pas exactement ce que c'est qu'un dessin. Je parle pas des dessins très classiques et tout ça, mais il y a beaucoup de dessins qui sont quelque chose de tellement intime que on a de la peine à les déchiffrer, quoi. On est ému par ces dessins, mais on les déchiffre pas forcément, quoi. Et l'arrivée du surréalisme, ça a libéré beaucoup de choses, pas seulement dans le dessin, mais dans l'écriture aussi, mais ça a libéré beaucoup de choses. Et je crois que on est souvent un peu injuste avec le surréalisme. Le surréalisme, je dis pas que les œuvres surréalistes sont forcément les plus représentatives de ce qu'est le surréalisme, mais le surréalisme a transpiré sur notre façon de voir, quoi.
Alors, vous avez une connaissance du dessin, mais pas seulement, puisque, par exemple, dans Manifeste incertain, il y a des personnalités, comme moi j'ai cité Walter Benjamin, il y en a d'autres. Vous connaissez parfaitement, vous pouvez mettre en œuvre leur biographie, et souvent on se révèle des pans de leur personnalité qu'on ne connaissait pas. Comment cette connaissance, cette acquisition de connaissances, comment se centre le dessin au milieu de tout ça ? Comment le reliez-vous avec le dessin ?
Je ne le relis pas, en fait, parce que je pense que le dessin et le texte sont des langages qui sont qui sont pas incompatibles. Et donc, il n'y a pas de véritable rapport entre eux, quoi. C'est pour ça que moi, je suis contre l'illustration. J'illustre pas les textes que j'écris et je laisse ces deux langages, en fait, coexister, mais sans forcément se réconcilier. Et pour moi, le texte, où je vais chercher la précision, je vais chercher la documentation, justement, sur un auteur, sur, par exemple, Marina Tsvetaeva ou Pessoa, ou Walter Benjamin. Je vais évidemment me documenter, je vais lire leur œuvre, et je vais me documenter le plus possible. Et ce travail d'écriture, qui est en fait une manière d'exprimer mon rapport de lecteur, parce qu'en fait j'ai commencé à lire assez tard, mais j'ai beaucoup lu, et puis chaque fois que je m'intéresse à un auteur, c'est que je le relis, en fait, et je le relis pour en faire un livre. Et donc cette partie d'écriture et de recherche n'a rien à voir avec le dessin. C'est vraiment un autre langage, c'est un langage que je rapproche beaucoup de l'inconscient, quoi. Moi, je dessine dans un état second, je dessine beaucoup, je dessine dans une période très courte, à peu près 2-3 mois, et tout le reste du temps, je dessine jamais. Et donc, quand je suis dans cet état second, en fait, le dessin, je le calcule pas, comme on dit. Il vient comme il vient, quoi. Et tout à coup, j'ai envie de dessiner des arbres, de la végétation, des forêts, tout à coup la mer, tout à coup autre chose, et c'est indépendant du texte, quoi.
Alors, quel dessinateur êtes-vous sur votre table de travail? Est-ce qu'il y a, vous parliez donc d'intensité, est-ce qu'il y a vraiment tout le temps cette dimension, ou est-ce qu'il y a un moment où ça repose, c'est vous reprenez, vous affinez, vous soulignez les matières, vous vérifiez le cadrage, ou comment se passe ce moment de dessin?
Ben, c'est très spontané, en fait. Soit je dessine, ça m'arrive beaucoup de dessiner dans la nature. Et dans la nature, je sais pas de copier la nature, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. C'est comme si je dessine d'après une photo, je cherche pas vraiment à copier la photo. Moi, ce que j'aime bien quand je travaille d'après la photographie, j'aime bien avoir 10 de photographies différentes d'un personnage ou je sais pas, ou d'une situation, et puis de pouvoir l'interpréter en dessin. Je dessine très spontanément, quoi. Puis en fait, le dessin, tout à coup, il est terminé. Je sais pas pourquoi il est terminé, en fait. Je pourrais encore continuer, mais je décide qu'il est terminé. Et je déchire très peu de dessins, en fait. J'en écarte pratiquement pas, quoi. J'en écarte peut-être un ou deux sur un livre. Et puis j'accepte le dessin comme il apparaît, quoi. Même si je le trouve pas forcément très bien. Mais c'est pas... un dessin, il n'a pas forcément besoin d'être très bien pour moi. Il doit exprimer quelque chose, il doit être une tentative. Et c'est pas forcément un résultat, quoi. Enfin, c'est pas forcément un résultat exceptionnel, quoi. C'est plutôt assez rare, quoi, d'arriver à faire des dessins exceptionnels. Ça arrive, hein. On sent qu'on fait un dessin on a réussi à exprimer quelque chose qui était inexprimable. En fait, moi, je cherche beaucoup à aborder des sujets auxquels j'ai jamais pensé. Donc, dans chaque livre, je fais un effort. Par exemple, je dessine des chiens, ou je dessine des abeilles, ou je dessine des éléments que j'ai jamais recherché, en fait, j'ai jamais expérimenté. Donc dans chaque livre, je me dis, je vais essayer quelque chose, quoi. Là, je suis en train de faire une série de dessins sur des vieux, des visages de vieux, et ça m'intéresse beaucoup de dessiner les rides, tout le côté fripé du visage et tout ça. J'essaie d'y mettre de la tendresse dedans. J'essaie pas de faire des dessins monstrueux, quoi.
Vous êtes donc directeur des Cahiers Dessinés. Vous avez donc créé cette maison d'édition. Vera Michalski lui a permis d'avoir son autonomie. Vous publiez donc les œuvres d'autres. C'est essentiel d'ailleurs, hein, parce que le catalogue aujourd'hui des Cahiers Dessinés est tout à fait remarquable. Quel est votre souhait dans l'édition des autres? Parce que la qualité des livres fait que ça se décale, ça se démarque de ce qui est souvent fait lorsqu'on du dessin est édité. Excusez-moi. Allez-y.
Oui, dès le départ, il y a maintenant 25 ans, à peu près, 24 ans, on a décidé avec Vera Michalski et son mari, qui était encore vivant, on a décidé de faire des beaux livres, de faire des livres bien imprimés, sur un beau papier, et de rendre hommage au dessin, d'être le plus fidèle possible à faire une reproduction qui soit la plus fidèle possible. Et donc, pour moi, c'est très important. J'avais fait la maquette du livre, qui est une maquette littéraire, en fait. Et je voulais faire rentrer le dessin comme la littérature est représentée, avec un classicisme qui me plaisait bien. Je voulais pas faire quelque chose à la mode, parce que les modes, elles passent vite. Je voulais faire quelque chose qui soit ancré dans le temps, quoi. Ce qui est important pour moi, c'est de découvrir des dessinateurs ou de rendre hommage à des dessinateurs qu'on est en train d'oublier, quoi. Moi, je suis très sensible à la question de l'oubli. J'ai très peur qu'on oublie des gens, qu'on oublie Roland Topor, par exemple. J'ai eu très peur qu'on l'oublie, parce que je voyais que ses livres ne se vendaient pas du tout. Et donc, il a fallu faire tout un travail de distribution, de promotion, d'édition, puisqu'on a, je crois qu'on a fait 6 livres de Topor, on en sort un à la rentrée, en septembre. Et je crois que ce sera l'avant-dernier livre qu'on fera. Je crois qu'on aura tout édité Topor. Donc c'est considérable, on a édité des milliers de dessins. Et voilà, il y a d'autres dessinateurs comme ça qui soit des gens qui sont pas connus, qui ont un tout petit public et qu'on essaie de faire connaître, qui ont une réputation, mais qui est pas. Voilà, par exemple, on a fait un livre de Jean-Baptiste Sécheret, qui est un peintre qu'on connaît un peu, que le public connaît un peu, mais pas très bien. Donc c'est intéressant de faire un livre avec un ensemble de ses peintures et de ses dessins. Et on vient d'en faire un sur Éric Desmazières, qui est donc graveur, et là on montre pas ses gravures, pour lesquelles il est très connu internationalement, mais on montre ses dessins qui n'ont jamais été édités, quoi.
Alors, Frédéric Pajac, vous n'aimez pas forcément la bande dessinée, vous avez des réserves avec la bande dessinée, alors que, par exemple, au festival d'Arles, au festival du dessin, on va découvrir des œuvres d'Edmond Baudouin, de Guido Crépax, de Lorenzo Mattotti, Dominique Goblet, il y a Gabriella Giandelli ou Max Heimann. Qu'est-ce qui vous dérange dans la bande dessinée?
Je crois que pour moi, c'est ce qui me dérange, c'est que c'est... En fait, c'est la répétition du personnage, c'est la répétition qui a... C'est les planches avec toutes ces images dans une seule page, avec ces bulles qui prennent toute la place, qui tuent le dessin. Bon, j'ai beaucoup aimé la bande dessinée, mais j'ai pris mes distances avec la bande dessinée. Mais il y a encore des choses qui me plaisent bien. Moi, j'ai édité, par exemple, Buzzelli, qui est un immense dessinateur. Et j'ai édité 4 livres de lui. Et pour moi, c'est un génie du dessin. C'est un peintre, d'ailleurs, au départ. Et pour moi, c'est voilà quelqu'un de méconnu en France, qu'on avait oublié, qu'on a connu dans les années 70. Qu'on a complètement oublié, et de le ressortir. On a rencontré pas mal de succès, les gens se sont vraiment intéressés à lui. Et pour moi, c'est un dessinateur et un écrivain aussi fabuleux. Parce que c'est vrai que dans la bande dessinée, si vous voulez, c'est un art qui est proche du théâtre, c'est du dialogue, essentiellement. Et puis, on n'a pas de grands dialoguistes, quoi. On n'a pas des Shakespeare ou des Beckett. C'est assez pauvre. Je trouve les scénarios sont souvent... je ne trouve pas très bien écrit, quoi. Il y a des exceptions, évidemment, je ne peux pas faire une généralité ambitieuse, mais ce que j'aime, je crois que c'est pas une question, non, je sais pas, la question c'est pas d'aimer ou pas aimer, mais ce qui est important dans le dessin ou dans la peinture, c'est que c'est réservé à des gens qui font l'effort de s'y intéresser. C'est pas un art de masse média, quoi. Et la bande dessinée, c'est un art de masse média. Et en fait, quand on est plus on fait pour un grand public, un large public, moins les choses sont intéressantes, quoi. Mais c'est dans tous les domaines. C'est valable dans la musique, c'est valable dans tout, hein. Dans la littérature aussi. Il n'y a pas pire que les best-sellers, quoi.
Frédéric Pajac, je vous propose une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes et on parlera donc là du 4e festival du dessin d'Arles. A tout de suite.
À tout de suite.
And the valleys and the mountains of time.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Frédéric Pajac, qui est le directeur artistique du 4e Festival du dessin d'Arles et des précédents, bien sûr. Et donc, Frédéric Pajac, en fait, ce festival, c'est comme une synthèse de toute votre carrière de, à la fois d'éditeur, de créateur de journaux, de passionné de avec le dessin donc au centre de l'ensemble de toutes vos activités. Comment s'est décidée cette édition du festival? Qu'est-ce qu'elle vous permet?
Alors au départ, moi je me suis installé il y a une dizaine d'années à Arles. Et je voulais pas vivre comme un touriste ou comme un étranger. Je voulais m'impliquer dans la ville. Je voulais faire quelque chose qui puisse intéresser la ville, la dynamiser, et puis où je puisse m'intégrer, travailler avec des gens. J'avais envie de quelque chose de collectif, quoi. Et parce que c'est vrai que quand on est dessinateur ou écrivain comme moi, on est souvent seul à sa table de travail. Et en général penché, on devient presque bossu, et on vit dans une extrême solitude, quoi. Et moi j'ai pas envie d'être dans une tour d'ivoire, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai toujours eu la curiosité de voir ailleurs, de voir ce que font les autres dessinateurs ou les autres écrivains. Donc à Arles, je me suis dit, c'est une ville qui a déjà les rencontres de la photo, donc qui utilise pas mal de lieux. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose avec le dessin. J'en ai parlé à Vera Michalski, qui a tout de suite approuvé, et qui m'a donné son soutien, et qui a un soutien très important et très très généreux. Et donc j'ai réussi à convaincre le maire aussi, Monsieur De Carolis, Patrick De Carolis, qui a accueilli ce projet avec enthousiasme. Et puis ce qui m'intéressait vraiment, comme éditeur, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me suis intéressé à la reproduction la meilleure possible. Mais en fait, je crois que le public, il est très content de voir des reproductions, des livres, etc. Mais je crois qu'il a besoin d'être confronté aux originaux, parce que les gens s'intéressent énormément à l'original, à la façon dont c'est fait, à savoir si c'est de la gouache, de l'aquarelle, du crayon, de l'encre, et quel papier est utilisé. Il y a vraiment un engouement pour ça. Et donc, confronter les gens à l'original, il n'y a pas mieux qu'un festival pour permettre la diversité, parce que c'est ce que je recherche, moi. C'est vraiment le dessin dans tous ses états. J'ai pas une ligne idéologique ou esthétique. C'est pas ça que je recherche. Moi, je recherche vraiment le dessin dans tous ses états. Alors il y a quelques thèmes dans le festival. Il y a par exemple le thème du paysage qu'on retrouve chaque année à l'archevêché. Et là on confronte quelques dessinateurs qui font essentiellement du paysage, mais ou alors qui font secrètement du paysage, comme par exemple Edmond Baudouin, qui est dessinateur de bande dessinée. Et qui pour lui fait des arbres, dessine des arbres, etc. C'est le même, c'est le cas aussi pour Georges Raymond Dessène, qui est un dadaïste qu'on a un peu oublié, qui est un dadaïste important dans le mouvement de l'après-guerre, après Première Guerre mondiale. Et donc curieusement, il a dessiné pour lui, il a dessiné des arbres, il a dessiné la nature dans le Midi où il s'est retiré. Et en fait, on connaît pas ses dessins. Moi, je les connaissais très très mal. Et puis là, j'ai grâce à la galerie Chave, Avance, j'ai réussi à rassembler une quarantaine de dessins qui sont vraiment très intéressants et qui sont des dessins de paysage. Donc, il y a aussi l'art brut qu'on a chaque année un rendez-vous avec les dessinateurs de l'art brut, tous les dessinateurs qu'on ne connaît pas, qui sont des gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes psychiatriques. Et voilà, on présente leur dessin, on présente chaque fois trois ou quatre artistes et on les confronte comme ça, et ça fait, on entre dans un monde, c'est très beau, la salle qui est consacrée au musée de l'art brut, elle est très belle parce qu'elle est, il y a beaucoup de bois, sur les murs, il y a du bois, et les œuvres sont accrochées sur du bois, il y a quelque chose de très chaleureux, il y a quelque chose de on entre dans un autre monde, quoi, c'est je trouve l'accrochage très, très réussi, c'est un commissaire d'exposition qui est Otto Teichert qui a fait ça, et je trouve très réussi, quoi.
Il y a la partie Viva Italia qui est importante où on découvre aussi à la fois donc des artistes comme Fellini, les dessins de Fellini. Alors on savait qu'il dessinait, mais là de les voir, c'est quand même assez étonnant, émouvant. Il y a une façon aussi de toujours replacer le dessin dans l'œuvre des artistes. Comme par exemple Piranèse ou Buzzati, Dino Buzzati.
Oui, c'est. Bon, l'exposition sur l'Italie, c'est donc essentiellement le XXe siècle, avec des œuvres des futuristes italiens, des œuvres de l'Arte Povera. Et c'est une très belle collection qui vient de Milan. Présente presque une centaine de dessins de plusieurs artistes. Je crois qu'il y a deux, trois dessins par artiste. Et puis on a complété avec des dessins de Fellini, de Pasolini aussi, qui sont très beaux, qui sont des dessins un peu. On ne sait pas si c'est de la disparition ou de l'apparition. C'est des dessins très délicats où on voit à peine, c'est des autoportraits, enfin, entre autres, mais il y a des autoportraits qui sont vraiment évanescents. C'est très sensible, le travail de Pasolini. C'est très différent de son cinéma qui est assez brutal et assez violent. Mais là, il y a une extrême sensibilité. Il a toujours dessiné, d'ailleurs, à Pasolini. Et puis, on a aussi mis, vous avez cité Buzzati qui est donc un écrivain et qui a toujours dessiné et pour lui le dessin c'était vraiment quelque chose de fondamental et on le connaît pas tellement comme dessinateur, tout le monde connaît Le désert des Tartares parce qu'il était en plus adapté au cinéma, mais on connaît pas ces dessins qui sont étranges et qui doivent beaucoup au surréalisme. Et moi j'aime beaucoup ses dessins, c'est pas un dessinateur virtuose, c'est un dessinateur, d'ailleurs moi je m'intéresse pas forcément aux dessinateurs virtuoses, j'aime bien présenter des grands dessinateurs, je sais pas, comme Steinlen par exemple, où on a présenté en première mondiale la danse macabre, qui date de 1910 je crois, et qui est vraiment de toute beauté et surtout encore une fois de grande virtuosité, mais je m'intéresse pas qu'aux gens virtuoses, je m'intéresse aussi aux gens qui dessinent avec difficulté et je crois que le public il aime bien ça, il aime bien aussi s'identifier à des gens qui sont pas des ce qu'on appelle des grands dessinateurs ou des grands artistes, mais qui sont des dessinateurs qui se sont efforcés à dessiner, qui ont cherché, qui ont pas forcément trouvé. Et il y a cette humilité en fait, voilà, du dessin. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup, quoi.
Frédéric Pajac, vous nous permettez de découvrir des dessins. Vous avez cité dans la partie paysage quelques artistes, mais il y avait par exemple Louise Michel. On découvre des dessins de Louise Michel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres ainsi à découvrir? Est-ce que vous avez vous-même découvert des œuvres récemment qui pourront être présentées dans la 5e ou la 6e édition du festival?
Oui, je dirais oui. C'est tous les jours que je découvre des choses. C'est vraiment tous les jours. Je reçois beaucoup de propositions. Il y a beaucoup qui m'intéressent. Et effectivement, je suis en train déjà de construire l'édition de l'année prochaine et les éditions suivantes. J'ai déjà des thèmes, j'ai déjà des artistes que je mettrai en avant. Et disons, la découverte, c'est vraiment infini dans le dessin. Il y a tellement de gens qui dessinent, il y a tellement de dessinateurs, et pas seulement en France, il y en a dans le monde entier. Donc c'est complètement étonnant. Vous voyez, par exemple, on m'a parlé de ça un peu plus tard qu'avant-hier. C'est un sujet que je connaissais un peu, mais je ne sais pas si vous voyez qui est l'ethnologue Pierre Clastre, qui a disparu il y a assez longtemps, je crois dans les années 80. Et Pierre Clastre était dans les tribus d'Indiens d'Amazonie, et il s'est confronté à des gens qui n'avaient jamais dessiné, jamais utilisé du papier, et ni des crayons, ni de l'aquarelle. Et donc il les a fait dessiner, quoi. Et ça, ce sera un sujet que je mettrai l'année prochaine, parce que je mettrai une quarantaine de dessins de ces Indiens, ces tribus indiennes, pour montrer que voilà, que le dessin, il peut surgir comme ça de nulle part, en fait, de quelqu'un qui n'a jamais qui n'a aucune référence, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de montrer ça.
Frédéric Pajac, un festival comme celui d'Arles, c'est aussi un travail d'équipe. Qu'est-ce qui vous plaît aussi dans cette partie collective, puisque vous êtes aussi très attaché à ce fonctionnement en collectif?
Alors, on est 200, hein, quand même.
C'est pas à temps.
Pardon ?
Je ne pensais pas à temps.
Ah oui, si, on est 200. Mais bon, on a une équipe, l'équipe qui dirige les choses, on est une petite dizaine. Et alors c'est assez drôle parce que ce sont que des femmes. Donc je suis seul homme de toute l'équipe. Et c'est assez plaisant, je dois dire. Et ce que j'aime, c'est l'échange, quoi. C'est l'échange, voilà, la réflexion. On se pose beaucoup de questions. Où est-ce qu'on va exposer tel dessin? Ça, c'est un travail qu'on fait ensemble, qu'on essaye de... voilà, on construit le festival, on construit les expositions à plusieurs. Et c'est un échange, on argumente, moi, j'aime beaucoup, on débat beaucoup et on trouve toujours une solution, quoi. Moi, je sors ma tour d'ivoire, c'est formidable.
Au niveau de votre œuvre personnelle, donc il y a eu l'ensemble du Manifeste Incertain, est-ce qu'il y a d'autres œuvres en préparation que vous allez publier, aux éditions Noir et Blanc ou autres? Noir sur blanc, pardon.
Oui, noir sur blanc, oui. Je suis en train de finir, là, je suis en plein dans la phase du dessin, mais je suis en train de finir un livre un manifeste, ce sera le manifeste 11, qui sortira en octobre, le 1er octobre, et qui est consacré en grande partie à Saint-François d'Assise. Donc j'ai beaucoup étudié, lu, fait des recherches un peu sur... sur Saint-François, mais aussi sur son époque, qui est une époque charnière, qui est entre le XIIe et le XIIIe siècle, et qu'un historien comme Jacques Le Goff a qualifié de première renaissance. Et c'est vrai que c'est une renaissance parce que c'est l'apparition des universités, c'est l'apparition des cathédrales, c'est l'apparition d'un nouveau commerce, de certaines monnaies qui n'existaient pas avant, et du prêt, de l'usure. Il se passe beaucoup de choses dans cette époque, et puis Saint-François est un personnage tout à fait qui va vraiment faire trembler l'Église, quoi. Et je trouve que c'est un personnage tout à fait passionnant. Et donc, je me suis rendu à Assise, évidemment. J'ai un peu sur ses traces et tout ça. J'ai aussi retourné à Rome. Donc, j'ai terminé l'écriture du livre. Maintenant, je suis en train de terminer les dessins. Et voilà, donc je vais faire pas mal de portraits de Saint-François, qui sont des portraits assez personnels. Et ce sera mon interprétation du visage de Saint-François, parce que chaque peintre et dessinateur qui l'a représenté sont toujours différents les uns des autres. On n'a jamais fixé un visage précis de Saint-François. Donc c'est une occasion aussi de travailler en toute liberté.
Merci beaucoup Frédéric Pajac. Je rappelle que le Festival du Dessin est jusqu'au 17 mai donc 2026. Et toutes les informations sont en ligne. Merci encore Frédéric Pajac. Et ben on sera en rendez-vous en octobre pour le Manifeste Incertain 11. Merci. Okay. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Truth Truth is a relative thing, always adjustable to reality. And the little is just so. Thank you. is too high priced. Takes away the thrill of illusion. My moonshine, the pretty parts, my love rhyme. Every crutch and cushion that may soften the impact of life. And so with truth, I make my compromise. I make my compromise. I make my compromise.
Le dessin peut aussi s'exprimer sur d'autres supports. Un numéro spécial de Courrier International intitulé « Le monde selon Bills », portugais. Bills pratique l'art urbain. Il réalise donc de très grandes fresques. Et c'est aussi une manière de découvrir des œuvres dessinées. Alors, Bills est un artiste tout à fait particulier parce qu'il n'utilise pas la technique des enduits colorés pour réaliser donc des fresques. Il va travailler plutôt en creux. Alors, il a, par exemple, sur des affiches collées, creusé pour faire apparaître différentes formes, différents motifs, ces couches de papier, et qu'il a aussi passé sur un badigeon blanc qui permettait d'avoir ainsi tout de suite une couleur qui émergeait des couches creusées dans ces affiches. Avec les murs, il procède de la même manière, c'est-à-dire qu'il va creuser le mur pour faire apparaître des couleurs, des textures, et il va pas du tout utiliser le mur comme une toile, mais vraiment comme plutôt un espace archéologique, et il va ainsi remonter dans l'histoire du bâtiment. Ces fresques sont donc très grandes, sont composées de portraits avec des regards très intenses, et il y a vraiment ce travail de réalisation qui est fait par ces morceaux qui sont enlevés et qui vont composer les œuvres. C'est un artiste qui opère depuis plus d'une vingtaine d'années avec des rencontres importantes comme celle de Banksy. Et il œuvre depuis pas mal d'années à Barcelone. Et il œuvre depuis pas mal d'années à Lisbonne. Et il a profité de tout un espace qui se trouve en face de Lisbonne avec des prix immobiliers beaucoup plus accessibles. Et il a donc récupéré des friches industrielles qu'il a investies. Et il y a un ensemble de lieux qui par la suite vont être créés suite au succès de l'artiste. Il a créé par exemple la galerie Underdogs, la galerie Eterno, il y a un autre espace qui est plus dédié au numérique, et à chaque fois, l'idée est de défendre et de permettre à de jeunes artistes d'avoir un espace et de pouvoir développer leur œuvre. Cette continuation est extrêmement importante puisque Bills a créé un festival d'art multiples avec des transversalités importantes avec d'autres médiums. Donc c'est le festival Imminente et il aura lieu en septembre, donc à Lisbonne. Bills, aujourd'hui, fait vivre une cinquantaine de salariés. Il y a une quarantaine de projets qui sont en cours depuis le début de l'année 2026. Et c'est extrêmement important. Et ça montre toute la puissance de l'approche et comment il a renouvelé, bouleversé l'art urbain et comment il a donné aussi au dessin une ampleur tout à fait particulière. Bill s'expose dans de très nombreux pays, à Hong Kong, à Munich, c'est vraiment un artiste international. Donc, numéro spécial de Courrier International, donc qui représente les numéros 1853 et 1854. Le prochain numéro sera le 20 mai. Et donc, sur cette quinzaine, eh bien, vous pouvez découvrir ce numéro spécial où il y a tout un entretien qui est illustré et il y a de nombreuses œuvres de Bills qui sont utilisées pour l'iconographie de ce numéro. Il est au prix d'ailleurs de 6,90 €. Jeudi prochain, nous serons avec Frédéric de Beaumy pour son dernier livre Calter, qui est publié aux éditions Cambourakis. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.